Michée 3, on continue l'étude dans les petits prophètes. Si vous êtes prêts, on va lire à partir du verset 1. Michée 3. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit ? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là parce qu'ils ont perverti leurs agissements. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous et finit les visions. Ce seront les ténèbres et finit les oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la famille de Jacob et prince de la communauté d'Israël. Vous qui avez en horreur la justice et qui tordez tout ce qui est droit. Vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime. Ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du Temple, une hauteur couverte de buissons. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte. Merci parce que toutes ces choses dans l'Ancien Testament, tous ces textes qui nous semblent difficiles, qui nous semblent parfois impénétrables, Seigneur, c'est toi-même qui nous dis qu'elles rendent témoignage de toi, qu'elles parlent de toi. Et Seigneur, on veut ce matin te voir à travers ta parole, voir ce que tu as à nous dire et aussi simplement en apprendre plus sur toi, Seigneur. Aide-nous à le comprendre, ouvre les yeux de nos cœurs pour comprendre ta parole, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Qui c'est qui est super à l'aise avec le contexte de Michée ? Est-ce qu'il faut que je fasse un rappel ? Qui c'est qui n'a pas besoin de rappel ? Vous gérez, Michée ? Non, c'est bon ? Ok, on va refaire, parce que Pierre a déjà présenté le livre. Mais c'est toujours des choses qui sont un petit peu difficiles à se rappeler. Donc Michée, dans son livre, dénonce en grande partie la corruption et l'oppression envers les pauvres par les dirigeants du peuple juif dans son livre, et il va à travers ces quelques chapitres les reprendre. Il décrit des choses très pratiques, des choses qui sont très directes, et à cause de ça on l'a souvent comparé à Jacques dans le Nouveau Testament, en disant c'est quelqu'un qui dit bon, vous dites Jacques, dans le Nouveau Testament, parle de la foi sans les œuvres et montrez-moi vos œuvres pour voir que votre foi est vivante. Et d'une certaine manière, Michée, c'est un peu la même idée. Vous êtes des juifs, est-ce que vous vivez comme Dieu veut que vous viviez ? Quels sont les actes et est-ce que c'est en correspondance avec ce que je vous ai demandé de faire dans l'Ancien Testament ? Michée a vécu sous les règnes de Jotham, Achaz et Ézéchias, trois rois dans le royaume du sud, Juda. Et c'est le texte même qui en parle, mais il y a des références dans d'autres passages, on va le regarder, pour vérifier ces dates. Alors pour le mettre dans le contexte de l'histoire du peuple d'Israël, On se souvient qu'il y avait eu, David, enfin Saül, roi, David, Salomon, qu'on connaît bien. Là, le royaume était grand, était tout uni. Et après Salomon, son fils fait un peu n'importe quoi et le royaume se divise en deux. Il y a un peu une révolte interne, ça se sépare en deux. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, encore une fois, on l'appelle Israël. Le royaume du sud est souvent appelé Juda. Et cette division se passe en 930, avant Jésus-Christ. Il y a une succession de différents rois, dont ces trois rois que je vous ai parlé dans le royaume du sud. Et au bout d'un moment, le royaume du nord, qui n'a eu que des mauvais rois, va être conquis par les Assyriens. Les Assyriens, c'est Ninive, c'est le peuple vers lequel Jonas avait été envoyé. Et donc, en 731, donc en 722, pardon, donc environ 200 ans après la division du royaume, le royaume du nord est conquis, emmené en captivité, il ne reste plus rien en gros. Et si vous vous souvenez de l'histoire, si vous avez déjà lu dans Chroniques et Rois, les Assyriens continuent vers le sud et se retrouvent devant... la ville de Jérusalem et il y a un fameux épisode avec un certain Rabshaké, si ça vous dit quelque chose, qui vient parler aux Juifs, qui vient en quelque sorte les insulter, leur dire « votre Dieu va pas vous sauver », etc. Et ce roi Ézéchias, dont il est question dans Michée a vécu à cette époque-là, va se tourner vers Dieu, va enlever les hauts lieux où il louait d'autres dieux et va essayer de ramener le peuple vers Dieu. Et grâce à ça et grâce à son comportement et le fait que le peuple d'Israël de Juda se tourne vers Dieu, on se souvient d'un grand miracle où il est question de 185 000 Assyriens dans le camp qui sont tués en une nuit et qui doivent repartir, et donc le royaume du sud, parce qu'il a obéi à Dieu et parce qu'il s'est tourné vers Dieu, est sauvé. Et dans l'histoire, il aura 150 ans de plus d'existence du royaume du sud, mais qui finalement sera défait et conquis par les Babyloniens en 580, à peu près. Et on pense, et beaucoup de gens pensent, que le royaume du sud, Juda, et ce roi Ézéchias, s'est tourné vers Dieu en grande partie à cause du ministère de Michée. Et alors, si vous voulez lire les histoires de ce que je viens de vous raconter, c'est dans 2 Rois 18 à 20 et dans 2 Chroniques 28 à 33, si ça vous intéresse. Et on sait que Michée a eu une influence et a été quelqu'un qui a été retenu dans cette histoire-là et dans cette époque du royaume du sud, Juda, parce que dans Jérémie 26, verset 18, il est dit « Michée de Moresheth prophétisait à l'époque du règne d'Ézéchias sur Juda et il disait à tout le peuple de Juda, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de pierres et le mont du temple, une hauteur couverte de buissons. Ézéchias, roi de Juda et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias n'a-t-il pas craint l'Éternel? N'a-t-il pas plutôt cherché à apaiser l'Éternel? Alors l'Éternel n'a pas accompli le mal qu'il avait l'intention de leur faire. Et nous, nous nous rendrions coupables d'un si grand crime. » Alors dans cette citation, ils ont Jérémie, ils n'aiment pas ce que Jérémie est en train de leur annoncer. Puis ils se disent, « Ah mais attendez, vous vous souvenez de Michée ? On a écouté Michée, on a fait ce que Michée nous avait annoncé de la part de l'Éternel, et on a été sauvés. » Alors il faudrait peut-être qu'on écoute Jérémie. Mais on voit que Michée était connu. C'est les chefs, c'est même pas Jérémie, un autre prophète, c'est les chefs du peuple d'Israël, du sud, donc Juda, de ce royaume du sud qui se souvenait de ce qui s'était passé avec Michée. Et donc on voit que ce Michée a une importance. on l'a pas encore vu, mais on le verra dans le chapitre 5. Michée, c'est le prophète qui annonce que Jésus va être né à Bethléem. Pour vous donner un peu un Michée, c'est Bethléem, c'est celui qui l'annonce. Et on voit aussi que les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus connaissaient Michée. Parce que quand les mages viennent voir Hérode, Hérode, il dit, ah oui, et le Messie, où est-ce qu'il doit naître? Et là, ils lui répondent, à Bethléem, il n'y a pas d'hésitation. Et donc, il connaissait Michée, il connaissait cette prophétie, il savait. Donc, c'est un prophète qui a une importance, qui a eu un impact. On dit souvent que c'est l'un des seuls des prophètes dans Juda ou dans le royaume du Nord, Israël, qui ont vraiment eu un impact. La plupart des autres, malheureusement, n'ont pas vraiment été écoutés souvent. On voit que Jonas a été écouté par le peuple au nord, la Syrie, mais beaucoup des autres prophètes n'ont pas eu de fruits positifs de leur ministère. Ils ont obéi à Dieu et ils n'ont pas vu le peuple se retourner et obéir à Dieu. Dans ce contexte, les annonces qu'on a dans ces livres, pour l'instant, on est plutôt avant le règne d'Ézéchias. C'est-à-dire que le peuple est encore sous le règne. Donc, on a parlé de trois rois, Jotham, qui était suivi d'Achaz, qui était suivi d'Ézéchias. Et on pense que ces écrits, ces annonces où Michée reprend les dirigeants du peuple, que c'était sans doute sous les règnes de Jotham ou d'Achaz. Jotham, notamment, on sait qu'il avait fait beaucoup de mauvaises choses que Dieu lui avait dit de pas faire, et donc on voit qu'il les reprend et il leur dit vous devez changer. Et plus tard, Ézéchias lui va entendre ce message et va agir en conséquence. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à ce passage où il va parler aux responsables du peuple. Il va parler aux responsables civils, politiques, il va parler aux responsables religieux, et il a beaucoup de choses à leur dire. Alors au verset 1, il commence, il dit « Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ceux qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là parce qu'ils ont perverti leurs agissements. » Donc ici, il parle aux dirigeants politiques. Alors, de manière très imagée, il leur dit qu'en quelque sorte, ils exploitent et ils profitent du peuple. Ils regardent le peuple et ils disent, qu'est-ce que je peux gagner de ce peuple? Qu'est-ce que je peux tirer pour mon propre bénéfice de ce peuple? Au lieu de dire, comment moi je peux donner à ce peuple? Je voulais le regarder après parce que le contexte, je trouvais est propice pour tout le passage, mais cette idée de dirigeant, on le comprend et en même temps on le comprend pas. On sait que les politiciens sont supposés être au service de l'État. C'est l'idée on est là pour les gens et on comprend dans l'idée, et en même temps dans le monde on a souvent l'idée de dirigeant, de quelqu'un qui est au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui tire le bénéfice des gens qui sont en dessous d'eux, et on va regarder après que c'est pas le cœur de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut pour les gens qui dirigent. On va le regarder plus en détail, mais l'idée ici c'est que les dirigeants du peuple que Dieu avait permis de diriger le peuple, ils ne se souciaient pas du bien du peuple, ils se souciaient de leur propre bien. Et ils disaient, je vais utiliser le peuple pour avoir ce que je veux et pas qu'est-ce que moi je peux donner, comment je peux servir le peuple. Et ici, alors au verset 4, il dit « Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas, il se cachera à eux à ce moment-là, parce qu'ils ont perverti leurs agissements. » Et c'est l'idée qu'ils vont maltraiter tout le peuple, et au jour où Dieu va venir les juger, ils vont dire « Ah, sauve-moi, sauve-moi !» Et ça me fait penser à cette parabole où Jésus parle d'un maître qui pardonne à un serviteur sa dette, et le serviteur se retourne, va dehors, et là il prend son frère qui lui devait quelques sous, et il le fait enfermer en prison. Et c'est un petit peu la même idée ici, que les dirigeants du peuple, ils sont en train de maltraiter tout le peuple, et le jour où la même chose va leur arriver, ils vont dire « Ah, pardon !» Je veux pas qu'il m'arrive ce que j'ai fait aux autres, en quelque sorte. Et Dieu les met en garde. Il va se cacher. Il va pas leur permettre d'échapper à leur jugement. Alors ça va de pair avec ce qui suit, mais cette idée souvent, on pourrait penser, on n'aime pas quand on a l'impression que Dieu nous reproche des choses, quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous parle. Mais on s'aperçoit dans ce texte et dans la Bible et quand on y réfléchit qu'il y a pire que le reproche du Seigneur, c'est le silence du Seigneur. C'est une fois que le Seigneur a donné des reproches, a fait des reproches, a parlé, qu'on n'a pas écouté à un moment. Il dit « Ok, je parle plus, je te laisse à ton choix. » Et finalement, c'est un petit peu l'idée de l'enfer. C'est Dieu nous donne une liberté de choisir de ne pas être avec lui. Et bien que ça nous semble peut-être fou quand on y réfléchit, on a quand même cette liberté de choisir et... Ici, ils ont choisi, il leur dit « Ok, je vais me cacher et je vais plus intervenir. » Mais ici, il leur parle encore. Donc, ils ne sont pas encore à ce point-là. Au verset 5, on lit « Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. » À cause de cela, la nuit tombera sur vous et finis les visions. Ce seront les ténèbres, finis les oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. Ici, il parle plus aux dirigeants religieux. Les prophètes qui égarent mon peuple. C'est une chose très dangereuse que de détourner les gens de Dieu, surtout quand on est supposé être ceux qui le représentent. On pourrait lire, si vous voulez, on peut lire dans Matthieu 23, ici ce sont les prophètes qui doivent parler de la part de Dieu, et ça ressemble énormément aux scribes et aux pharisiens à l'époque de Jésus qui devaient représenter Dieu, qui devaient amener le peuple à Dieu. Et quand on lit... On peut lire à partir du... du verset 13, si vous voulez. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour vous faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer deux fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or ? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande ? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme et la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisien aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, des morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer ? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fêterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que sur vous, tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. On peut s'arrêter là. Ça, on voit le parallèle avec ce qu'il est en train de dire dans Michée, de dire qu'il n'aime pas le droit, il n'aime pas la justice, il détourne les gens de Dieu. Et on se dit, c'est fou de se dire que les prophètes, que les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus connaissaient par cœur le livre de Michée et qu'ils n'y voyaient pas de... Il n'y voyait rien. Alors c'est pas pour pointer un tel ou un tel du doigt. C'est plutôt l'idée que si on détourne les gens de Dieu, gare à nous. si on prétend parler au nom de Dieu et qu'on ne le fait pas comme Dieu le souhaite, gare à nous. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans le monde qui se disent des pasteurs ou des prêtres qui ne représentent pas de manière fidèle ou correcte Dieu. Et on voit que Dieu a ça en horreur. C'est parce qu'il s'agit de la vie éternelle des gens pour Dieu. C'est pas... Si à la limite vous êtes en train de faire de l'agriculture et que vous maltraitez la terre, c'est une chose, entre guillemets, si vous utilisez des produits mauvais, j'en sais rien, mais si vous dites je suis pasteur et puis que vous empêchez aux gens de venir vraiment à Jésus et d'avoir la vie éternelle, pour Dieu c'est ça rend le sacrifice de son fils inutile. C'est d'une gravité absolue. Et c'est un autre passage dans Matthieu où on voit Jésus qui parle et qui exprime un petit peu cette idée. Dans Matthieu 18:6, il dit « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Et il utilise peut-être quelque chose d'imagé là, mais en même temps, c'est littéral. C'est vraiment, il vaudrait mieux pour toi qu'on te fasse ça, que tu détournes quelqu'un de moi. Et donc ça me donne encore plus de pression quand je suis devant vous à enseigner, et ça devrait vous donner envie, si vous partagez votre foi avec les gens, de savoir, de bien connaître la Bible et de bien partager ce que Jésus a à dire aux gens, et de bien partager l'évangile comme il faut et pas dire n'importe quoi. Et aussi peut-être de faire attention qu'il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés. Et on le voit ici, ces prophètes, ils annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre, et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. C'est marrant, et en même temps c'est un petit peu... on a l'impression de connaître, ou on peut penser malheureusement à des épisodes dans l'histoire de l'Église, peut-être avec par exemple les indulgences au Moyen-Âge, où si on payait suffisamment aux prêtres, alors ils disaient vous êtes bénis, les gens, tes amis qui sont morts, ils vont aller au ciel, et par contre si tu payes pas, si tu fais pas tout ce que je te demande, alors là tu vas être condamné, tu vas aller en enfer, Dieu te déteste, etc. Enfin, c'est un peu cette idée-là. Et il y a malheureusement énormément de gens dans le monde qui se servent de la foi chrétienne et d'autres religions pour leur gain personnel, pour de l'argent. Et il faut faire attention à ce genre de personnes, et puis il faut faire attention aussi à comment on annonce l'évangile. Et comment on partage les choses de Dieu, même parfois peut-être dans les situations de crise, quand il y a des choses horribles qui arrivent, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, peut-être ce qui s'est passé cet été à Nice, on trouve malheureusement des chrétiens qui disent avec joie, qui vont dire ah oui, c'est Dieu qui vous condamne parce que vous êtes mauvais et bien fait, vous avez ce que vous méritez, et il était temps que ce genre de choses arrive. Et il y a des chrétiens qui disent ce genre de choses, malheureusement, et c'est un petit peu cette idée, on fait pas ce qui leur plaît, et c'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut qu'on annonce le message indépendamment de notre bien-être ou de notre gain personnel. Au verset 8, Michée reprend, il dit « Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. » Michée est confiant en Dieu, lui. Il est confiant dans son appel en Dieu. Et il sait et il se rend compte aussi que ce qu'il fait doit être fait par la puissance de l'Éternel. Vous connaissez peut-être dans Zacharie 4:6 le verset qui dit « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et Michée a effectivement accompli ce que Dieu l'appelait à faire avec justice, avec courage. Il a obéi à Dieu, il était confiant de son appel. Et pour nous, dans l'Église, on a besoin tous de l'Esprit de Dieu pour faire des choses qui comptent pour Dieu. Et là aussi, malheureusement, on peut faire énormément de choses sans l'Esprit de Dieu. On peut acheter des bâtiments, se réunir, se retrouver, lire la Bible, toutes ces choses-là. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas présent ici au milieu de nous, dans nos cœurs, pour nous transformer par sa parole, pour être actif dans nos vies, alors ces choses ne servent à rien. Et malheureusement, alors encore une fois, c'est pas c'est pas une question de pointer du doigt ou dire, mais il y a beaucoup de mouvements ou d'églises ou de soi-disant églises dans le monde qui n'ont plus l'esprit de Dieu, qui n'ont plus et qui sont là et qui font des choses et on a l'impression qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Et on voit dans l'Apocalypse que Jésus reprend une certaine église en disant « Vous apparaissez comme vivant, mais en fait vous êtes mort. » Et on doit faire attention d'être dépendant de l'Esprit, de prier pour que Dieu nous remplisse de son Esprit, tous, de prier pour que les choses que nous faisons en tant qu'Église soient guidées et inspirées par l'Esprit de Dieu. Et Miché l'a bien compris et est dépendant de Dieu pour que son message et ce qu'il fait arrivent à quelque chose. Verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la famille de Jacob et prince de la communauté d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui tordez tout ce qui est droit, vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime, ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines et le mont du Temple une hauteur couverte de buissons. Donc il leur dit, là il parle un petit peu, c'est comme s'il reprenait tous les dirigeants ensemble maintenant, et il leur dit, vous faites toutes ces mauvaises choses, vous avez en horreur la justice, vous tordez le droit, Vous construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime, en exploitant des gens, en volant aux pauvres, en faisant des choses mauvaises. Les chefs jugent pour des cadeaux, c'est-à-dire que les juges du peuple sont corrompus, ils acceptent des pots de vin pour donner le jugement à un tel ou un tel, aux riches, etc. Ils défendent pas les pauvres. Les prêtres enseignent pour un salaire. Là aussi, c'est encore une fois cette idée, si on leur donne de l'argent, alors ils vont annoncer que tout va bien, que vous allez être bénis, que vous êtes les plus beaux, les meilleurs, Dieu nous aime, etc., etc. Et à la fin de toutes ces choses, donc ces prophètes prédisent de l'avenir pour de l'argent, et à la fin ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas. » En gros, ils disent « Nous sommes juifs, donc Dieu est avec nous. » Tranquille. Pousse. On est juifs. Tranquille. Et Miché leur dit, vous avez rien compris. Dieu leur dit, il y a des choses que j'attends de vous. Dans Miché 6:8, un verset qui est souvent cité, il est dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. On voit que ces choses ne sont pas les choses que faisaient les juifs et les dirigeants du peuple à cette époque-là, et c'est ce que Dieu voulait. Dans Romains 2, à la fin du chapitre, Paul, parlant à propos des juifs, au verset 25, dit « Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ?» Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Paul ici dit... Être juif, être le peuple de Dieu, c'est pas juste avoir l'apparence physique ou des marques dans la chair, mais c'est d'obéir à sa loi et de suivre ce que Dieu demande. Dans Tite, chapitre 1, verset 16, là aussi, parlant de juifs, il dit « Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. » C'est Jacques qui disait la foi sans les œuvres est morte. Il y a quand même quelque chose qui ressort. On a des devoirs, on a des choses à faire. Ça revient un petit peu à la question. On peut dire on a la foi en Jésus, on croit en Jésus, mais on croit en Jésus comment ? Ce que nous pensons et croyons doit avoir une influence dans nos comportements. Et pour simplement exprimer cette idée et se poser une question qui peut secouer un petit peu le cocotier, c'est est-ce que les démons et Satan croient en Jésus ? Ils savent qu'il existe, et pour autant, est-ce qu'ils sont sauvés ? Ils n'ont pas une foi qui les sauve, ils n'ont pas une foi qui les amène à changer de comportement et à obéir à Dieu. Et ici, ces chefs, ils se disent, c'est bon, on est juifs, pousse, on est tranquille. Et Michel leur dit, non, vous avez rien compris. Et vous pouvez regarder dans tous les... C'est quelque chose qui revient, ce thème-là, dans les prophètes, maintes fois, dans Ésaïe, où il leur dit, c'est pas les sacrifices et les choses comme ça que je veux, c'est un cœur brisé et contrit devant l'Éternel. C'est un thème qui revient, et Israël avait pas compris. Et on voit qu'Israël avait pas compris à ce moment-là de leur histoire, et qu'au moment où Jésus est venu, ils avaient toujours pas compris. Et que, malheureusement, il semblerait qu'ils n'ont pas encore compris. Alors, Dieu a un plan avec eux, mais ça doit nous parler aussi que nous, il veut que nous vivions d'une certaine manière. Ce dernier verset 12, c'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines et le mont du Temple une hauteur couverte de buissons. C'est celui qui est repris dans ce qu'on a lu dans Jérémie. Et c'est quelque chose qui, nous, aujourd'hui, on se dit, Jérusalem, ça fait un moment que c'est là. Mais dans un des commentaires que je lisais, il parlait de fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans les années, au 19e siècle, dans les années 1800, je crois que c'était 1818, le récit que j'ai lu en question, et des archéologues allaient à Jérusalem et sur le mont du Temple, il n'y avait rien, il y avait des champs. Et donc cette parole-là s'est accomplie. Et vous pouvez aller chercher en ligne, j'ai pas le nom marqué ici, mais je peux vous le donner, l'archéologue anglais qui est allé, qui a fait des recherches, qui a extrait des choses du sol pour regarder est-ce que c'est, et qui a dit, voilà, on voit qu'il y avait des constructions ici, et plus tard, ils se sont aperçus que c'était le mont du Temple et que c'était le lieu dont il est question ici, qui allait être labouré comme un champ, qui allait être un tas de ruines et qui allait être une hauteur couverte de buissons. Et donc le peuple n'a pas, malheureusement, n'a pas écouté. On voit qu'avec Ézéchias, ça a eu un effet positif, mais qu'au final, Dieu a été obligé de les punir. Alors on a parlé des dirigeants et on voit dans Michée que Jésus parle beaucoup des dirigeants. Et quand j'ai lu ce texte et quand j'ai lu le début de Michée, ma première réaction, alors on va prendre encore quelques minutes, c'est cette idée du lien entre le peuple et ses dirigeants. Parce que quand je lis ce texte, ma première réaction, c'est de me dire, mais c'est un petit peu, Dieu dit les dirigeants, là, vous êtes mauvais, vous faites n'importe quoi, et au final, je vais écrabouiller toute la nation. Et je me dis, c'est un petit peu injuste, il y a tous les pauvres, là, ils ont rien fait, Dieu le reproche aux riches de profiter d'eux et de les exploiter, de tout ceci, tout cela. Et je me dis à la fin, c'est un petit peu, pourquoi est-ce qu'il extermine la nation? Enfin, est-ce qu'il les emmène tous en captivité? On a l'impression que tout le monde souffre. Alors c'est pas toujours directement le cas, mais je pense que l'idée qui vient et l'idée qui ressort dans la Bible, c'est que nos dirigeants sont pas détachés et indépendants du peuple qui est en dessous. Nous sommes responsables et nous sommes d'une certaine manière influents sur les responsables que nous avons et que nous méritons. On adore pointer du doigt les autres, on adore dire que c'est la faute des dirigeants politiques, on adore que c'est dire que c'est la faute du pasteur, que c'est la faute du patron, que c'est la faute du prof à l'école, que c'est la faute de tout le monde sauf nous. Et le thème récurrent dans la Bible, c'est que c'est à nous de nous examiner chacun soi-même et de demander pardon pour nos péchés, et que c'est quand suffisamment de gens se retrouvent dans une situation où ils se rendent compte de leurs péchés, que les pays et les nations et les choses changent. Mais c'est à partir d'un changement individuel, et quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a des passages où on voit que le peuple reconnaît d'une certaine manière qu'ils sont complices dans ce qui se passe. On peut regarder Néhémie 9, 33, où il est dit « Pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as fait preuve de fidélité alors que nous avons été coupables. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos anciens n'ont pas mis ta loi en pratique et n'ont pas été attentifs à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. » Ici, ils ne se détournent pas, ils disent « nous avons été coupables ». Même si les chefs ont mal agi et portent la part de responsabilité qui leur revient, ils reconnaissent qu'ils ont été coupables. Et on voit dans Jérémie 5, au verset 31, il dit « les prophètes ne prophétisent que des faussetés, les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à celui qui vient ?» Là aussi, on voit qu'il y a une certaine idée de complicité, une certaine idée de « on prend plaisir à ça, on l'accepte ». Et par rapport à l'Église, par rapport peut-être à notre situation actuelle, dans 2 Timothée 4, au verset 3, il est dit « en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ». Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Et là aussi, on voit qu'il y a un lien annoncé par Paul, disant attention, dans les églises, les gens vont valider, vont mettre en place des dirigeants dans les églises qui disent des choses parce que ça leur plaît, parce qu'ils aiment ce qu'ils entendent, parce qu'ils ont envie de l'entendre. Et on voit qu'il y a cette idée que c'est lié. Alors, ici, je voulais nuancer aussi, parce qu'avec cette question et cette idée de dirigeant, on pense évidemment tout de suite à la politique, au peuple, etc. Et on se dit, on a tout de suite plein de pensées qui nous viennent. Et je pense que c'est, dans le contexte, c'est mieux de se limiter au royaume de Dieu et à l'Église. Ici, il parlait au peuple de Dieu, Israël, et je pense que pour en tirer des choses positives, c'est plus dans l'Église qu'il faut que nous regardions par rapport à ces choses-là. Les gens qui ne croient pas en Dieu, on ne doit pas s'attendre à ce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Ils vivent normalement comme ils doivent vivre. Et le peuple d'Israël, Dieu n'était pas en train d'aller voir les Assyriens, les Babyloniens, et leur dire « Ah, vous ne faites pas ce qui est marqué dans la Bible, ils ne connaissaient même pas. » C'est hors contexte. Ils disent « Non, vous, je vous ai donné la parole, je voulais que vous me représentiez sur terre, je voulais que vous soyez une bénédiction pour tous les peuples de la terre, et vous ne faites absolument de rien de ce que je vous ai demandé. Donc, je vais vous punir en conséquence. » Et pour l'Église, je pense donc qu'on peut regarder ce texte et se dire comment est-ce qu'on vit les choses dans l'Église, comment est-ce qu'on fait les choses dans l'Église, qu'est-ce qu'il en est pour les dirigeants dans l'Église, dans le monde. Et il y a un vrai danger pour l'Église, pour nous, de mettre en place, de laisser des gens diriger pour de mauvaises raisons, de diriger parce qu'ils ont des diplômes, de diriger parce qu'ils ont une capacité à divertir, parce qu'on aime bien comment ils parlent, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont... Il y a plein de mauvaises raisons. On est humain et on a des motivations qui sont humaines. Une des fois précédentes où j'avais enseigné, j'avais parlé de Paul et du fait que Paul, il disait qu'il était laid, qu'il parlait mal, qu'il était petit, qui, quand il écrivait des lettres, ça cognait. Et puis quand il était en présent, il était tout gentillet, tout mou. Et on se dit, c'est quand même Paul, quoi. C'est Paul l'apôtre. Et on se dit que les églises ne l'auraient peut-être pas validé. Ils auraient peut-être dit, non, on préfère prendre quelqu'un d'autre, quoi. Et alors, attention à nous, là aussi je parle, et quand le fait d'être ici devant vous, ça met la pression. Est-ce qu'on est ici pour notre caractère, notre intégrité, nos valeurs morales? Et ça peut être tout autant pour quelqu'un qui enseigne ici, pour quelqu'un qui mène la louange, pour quelqu'un qui sert à l'école du dimanche, pour quelqu'un qui toutes les responsabilités dans l'Église, aussi petites soient-elles, est-ce que nous y mettons une importance dans le caractère, de la personne? Est-ce que nous prenons les premiers venus parce qu'il y a vite besoin de gens pour vite on a personne pour l'école du dimanche, on prend le premier venu, hop. Ou est-ce qu'on dit non, on veut quelqu'un on veut des gens qui aient le caractère, qui soient fiable devant Dieu pour prendre ses responsabilités, même si elles nous semblent être des responsabilités entre guillemets minimes. Et aussi, quand nous servons, est-ce que nous faisons attention à notre santé spirituelle par rapport à quand nous servons? Si vous servez dans l'Église, quel que soit votre rôle, il y a une importance que vous soyez que vous viviez comme Dieu le veut, que vous soyez exigeant vis-à-vis de vous-même et de votre vie spirituelle. Et Jésus, lui, dans le Nouveau Testament, on le connaît, on connaît ses passages, il présente sa vision de ce qu'un dirigeant doit être. Il doit être le serviteur de tous. Il doit être soumis en quelque sorte au peuple tout en obéissant à Dieu, mais être là pour le service du peuple. Et on peut voir dans toute la Bible des exemples de serviteurs qui sont à l'opposé des dirigeants qu'on voit dans Israël, dans le monde, dans Israël ici, et puis dans le monde autour de nous. On peut penser à Moïse qui souffrait souvent à cause de ce que le peuple demandait. Il y a plein de passages où le peuple disait « Oh non, Dieu, tu nous laisses sortir là, mourir, donne-nous un autre chef pour qu'il nous ramène en Égypte. » On voit avec Samuel était là et le peuple dit on veut un roi, on veut ressembler aux autres peuples, et Dieu devait dire et devait encourager Samuel en lui disant c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. J'ai parlé de Paul qui était rejeté dans 2 Timothée, qui était a priori le dernier livre qu'on ait de sa part. On voit quand il parle à Timothée en disant « Tous m'ont abandonné en Asie, des gens qui étaient avec moi sont contre moi maintenant. » Et là aussi, on se dit c'est difficile cette idée d'être serviteur, et on obéit à Dieu, et le peuple ne répond pas forcément de manière positive à ce qu'on a à dire, un petit peu comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Dans Exode 18-21, il est dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, des centaines, de cinquantaines et de dizaines. » Donc des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Dieu a d'autres exigences pour les gens qui sont responsables, et nous devons chercher dans l'Église à suivre cet exemple et à suivre ce qu'il nous dit dans la parole. On a commencé avec l'idée de reconnaissance, avec la louange, avec la prière au début ce matin. Et quand on lit un texte comme ça, on peut sortir, c'est un petit peu le feu et le soufre, c'est un petit peu que du négatif, que des avertissements, que des choses où on se dit « Oula !» De nos jours, l'actualité, avec cette idée de dirigeant, ça nous fait évidemment réfléchir. Il y a les élections aux États-Unis, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a les élections qui vont avoir lieu en France l'année prochaine, et on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» On est inquiet, on se demande comment comment on doit se comporter en tant que chrétien. On voit des débats interminables pour ceux qui ont des amis aux États-Unis chrétiens, que c'est des cas de conscience, pour qui voter, comment, qu'est-ce qu'on doit faire. Et je voulais terminer avec l'idée que par rapport à ces dirigeants qu'on reprenait, par rapport à ces dirigeants qui nous dirigent dans le monde civil, non religieux ici, qu'en tant que chrétien, on doit s'efforcer de changer de perspective et se dire et se rendre compte et permettre à Dieu de nous libérer de toute crainte ou de toute peur ou de toute inquiétude, dans le sens où les dirigeants politiques qui seront élus dans notre pays, aux États-Unis, dans le monde, ils n'ont aucune influence sur l'état et l'avancée du royaume de Dieu. Les choses qui se passent dans le monde en dehors du royaume de Dieu, alors ça nous influence, ça nous affecte, ça nous touche dans nos vies, évidemment, mais par rapport à qui nous sommes, ça ne doit pas nous inquiéter outre mesure, ça ne doit pas nous mettre dans un état de peur et de crainte, et on devrait se réjouir que nous ne sommes plus français ou américains ou allemands, ou etc., mais que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, et que le royaume de Dieu va avancer quels que soient les résultats de toutes ces élections. Et que le royaume de Dieu va continuer à avancer comme Dieu le veut, parce que c'est lui le roi. Et nous pouvons être reconnaissants parce que nous avons un dirigeant parfait. Nous avons un roi parfait. Nous avons un roi de justice. Jésus, il est prêtre, prophète, roi, il est berger, et il est dans toutes ces choses par rapport au peuple d'Israël, par rapport à l'Église. Il est celui vers qui on doit regarder comme étant notre exemple, et nous pouvons être reconnaissants, nous pouvons nous réjouir parce qu'il est notre dirigeant en tant que citoyen du royaume de Dieu. Notre roi, c'est Jésus, et il nous aime, et il est bon, et il est parfait. Et toutes les réalités dans le monde doivent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se désinscrire et se désintéresser complètement de ce qui se passe dans le monde. Dieu nous appelle à être impliqués dans ce qui se passe, mais nous devons avoir cet espoir, cette joie, cette paix, de savoir que nous, notre roi, nous, notre président, président Jésus, il est toujours bon, il est toujours fidèle, il s'occupe toujours de nous. Quand nous sommes malades, quand nous sommes pauvres, quand nous sommes perdus, il est toujours là pour s'occuper de nous, et on peut se réjouir là-dedans. Donc je veux prier et remercier Jésus. Jésus, merci parce que tu es notre président, tu es notre roi, tu es bon, tu es proche de chacun de nous, et nous pouvons être reconnaissants, Seigneur, d'avoir un roi qui est parfait, qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui cherche à nous servir, Seigneur. Qui cherche à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Qui cherche à nous aimer, qui cherche à nous rendre semblables à toi. Nous pouvons nous reposer dans cette réalité et nous réjouir en cela. Et Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes tellement préoccupés par le monde et nous perdons tellement souvent le fil, Seigneur. Aide-nous à méditer ces choses cette semaine, quand nous lisons les nouvelles, quand nous voyons ce qui se passe, Seigneur, aide-nous à nous rappeler, je suis citoyen du royaume de Dieu. Aide-moi à me rappeler que j'ai un passeport qui n'est pas terrestre, Seigneur. Et aide-moi à me réjouir de cela, mais aussi à le partager avec les gens qui, eux, sont sous ces mauvais rois, sous ces mauvais dirigeants et sous ces gens qui ne cherchent qu'à les exploiter, qu'à profiter d'eux, Seigneur. Tu es le roi de paix. Seigneur, merci. Donne-nous vraiment un cœur plein de reconnaissance pour toi. change nos cœurs et change notre perspective, Seigneur. Vraiment, aide-nous à méditer ces choses cette semaine. Entendons, nous prions. Amen.